L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et ce matin, vous recevez Virginie Rufnacq.
Virginie Rufnacq, première vice-présidente du Congrès, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter votre invitation alors que le ministre des Outre-mer est attendu ce soir en Nouvelle-Calédonie. Une visite de 4 jours pour Manuel Valls, la 4e depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Bah écoutez, j'attends la poursuite des travaux que nous avons menés avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de responsabilité pendant plus de 10 jours à Bougival, en essayant de trouver la ligne du compromis entre deux aspirations opposées. Et aujourd'hui, cet accord, ce compromis plutôt de Bougival, eh bien, il doit se traduire notamment dans des textes qui clarifieront d'ailleurs peut-être sans doute un certain nombre d'interrogations de nos concitoyens sur le contenu lui-même de cet accord.
Mais enfin tout de même, depuis la signature, il y a eu le rejet par le FLNKS de cet accord de Bougival. Manuel Valls veut sauver cet accord. Est-ce qu'il va y arriver ?
Ben, moi je considère en tout cas qu'il le doit et puis que nous devons. Nous devons, pourquoi ? Parce que si c'est pas Bougival, moi je demande à ceux qui s'y opposent tant les plus extrêmes du côté du FNKS que quelques voix plus rares dans le camp qui est le nôtre, quel est le plan ? Quel est le plan ? Quel est le plan B en fait ? Qu'est-ce qu'il propose ? Alors pour le FNKS, Kanaki 2025 ? Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Revenons à la réalité un peu. Est-ce que ce pays, une seule fois, s'est construit son compromis ? Jamais. Jamais. Donc le FNKS doit dire la vérité à un moment donné, en tout cas sa nouvelle constitution d'aujourd'hui, puisque ça n'est plus celle qu'on a pu connaître par le passé. Donc qu'ils disent la vérité aux gens. Et puis par ailleurs, il faut dire qu'effectivement, pour avoir un accord commun en Nouvelle-Calédonie entre ces deux aspirations que je précisais au préalable, eh bien il faut trouver un chemin médian qui fait d'une certaine façon la concorde entre ces deux aspirations. Nous avons fait l'effort à Bougival, nous avons fait des pas, les indépendantistes autour de la table ont fait des pas, ce qui a permis la conclusion de cet accord de Bougival et les signatures apposées.
Voilà, justement, si groupe politique pour signer cet accord, est-ce que depuis vous avez compris les raisons peu explicites du choix incompréhensible du nouveau FLNKS, pour reprendre l'expression de Manuel Valls? Vous avez compris pourquoi ils avaient retiré leur signature ou pourquoi ils n'ont pas validé cet accord ?
Bah écoutez, je crois que le FNKS, dans sa version actuelle, est prise en otage par une radicalité extrême. Je lis beaucoup hein, toutes les écritures et je vois le dernier communiqué, notamment du FLNKS, où je vois salut les jeunes mobilisés depuis mai 2024. Ça veut dire qu'en fait, là, on vient saluer la mobilisation de jeunes qui a conduit à 2 milliards d'euros, plus de 200 milliards de nos francs de destruction en Nouvelle-Calédonie. C'est ça qu'on salue dans ce communiqué du FLNK. Je crois que là, on est sur même plus de l'électoralisme pur et simple. On est sur une violence comme outil. Une violence comme outil, donc la réponse est non. La violence n'emportera pas l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et nous ne céderons pas à cette violence.
Mais est-ce que le ministre peut convaincre un FLNK radicalisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut les convaincre de revenir autour de la table ou de soutenir à nouveau Bougival ?
Je ne sais pas si on peut convaincre des radicalisés. La France a elle-même un problème profond au niveau national sur un certain nombre de radicalisés qui existent dans notre pays. Mais en tous les cas, ce que je considère, c'est que les vrais juges de paix sur cet accord, en fait, sont les Calédoniens dans toute leur diversité. Et je crois qu'il faut s'adresser à tout le monde et il faut parler aussi au camp indépendantiste, sachant qu'une partie des indépendantistes, je pense notamment à l'UNI, fait le travail sur le terrain d'explication de cet accord. Nous aussi, nous faisons ce travail. Nous sommes questionnés, interrogés et parfois, je ne veux pas dire pris à partie, ce n'est pas la réalité que je vis au quotidien dans les réunions que j'ai tenues quasiment tous les soirs depuis le retour de Bougival, mais en tout cas interrogés sur un certain nombre de sujets qui posent question et qui peuvent inquiéter. Et c'est normal, parce que quand il y a compromis, il y a des pas de chaque côté. Donc je crois qu'il y a vocation à ne pas laisser, et c'est peut-être la volonté du FNKS radical CCAT, de laisser dans l'ignorance en fait leur population, et pour ne pas dire le fond en fait de cet accord, qui est véritablement un équilibre entre chacune des parties prenantes, avec un seul objectif, l'intérêt général des Calédoniens. Moi, je veux le dire, parce que je parlais de la jeunesse tout à l'heure, là, et l'instrumentalisation de la jeunesse pour la violence. Il faut vraiment dire à cette jeunesse sur le terrain, parce qu'elle est très concernée, c'est son avenir qu'on est en train de construire, qu'elle est utilisée aujourd'hui, utilisée comme de la chair à canon. Elle l'a été, et qu'en fait, ça la dessert elle-même, et que ça sera la première victime, c'est la première victime aujourd'hui de cela. Donc, Moi, je milite pour l'émancipation et l'élévation à la fois en compétences et en responsabilité de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie dans toutes ses dimensions. Et ce n'est pas en l'envoyant dans la rue qu'on lui permet de s'émanciper à cette jeunesse.
Alors, en attendant, le ministre des Outre-mer vient en Nouvelle-Calédonie pour sauver Bougival et il va installer pratiquement le comité de rédaction. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? À quoi ça va servir, ce comité de rédaction ?
Ben, vous avez un accord politique. Hein. D'ailleurs, c'était précédemment, évidemment, le cas déjà. Vous avez un accord politique, c'est l'accord de Bougival. Aujourd'hui, il doit trouver une traduction juridique à la fois dans la Constitution française, bien sûr, mais aussi dans une loi organique spéciale. Puis il y a une autre dernière loi, mais celle-là, ça sera celle du Congrès, qui est la loi fondamentale. Donc là, il vient précisément pour commencer à ce que nous travaillons sur ces textes et à faire des propositions, je l'imagine, du côté de l'État, et pour effectivement que chacun trouve l'équilibre dans cette rédaction. Et ça va être encore, je pense, une forme de discussion, de négociation, puisque nous allons vouloir bien traduire les uns et les autres correctement dans ces textes juridiques l'esprit de Bougival sur chacune des notions, parfois un peu compliquées. Je pense aux notions de nationalité calédonienne, je pense à la notion d'État, mais je pense par exemple aussi aux compétences vers les provinces. Tout cela doit trouver sa traduction juridique aujourd'hui.
Sans le nouveau FLNKS qui a dit qu'il n'y participerait pas. C'est pas gênant ?
C'est de leur responsabilité. Vous savez, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours boycotter et comme seule réponse politique, donner comme seule réponse politique le boycott. C'est pas une action responsable, c'est pas ce à quoi engager les anciens au travers des accords signés qui nous engageaient à nous mettre autour de la table. Depuis, finalement, 2021 et le troisième référendum, on a ce petit jeu par une partie du camp non-indépendantiste qui préfère boycotter plutôt que de venir discuter. Le camp indépendantiste, pardon, excusez-moi. Qui préfère, non, nous avons toujours été autour de la table, qui préfère boycotter, c'est tellement plus simple de ne pas être là, vous voyez, vous n'assumez pas vos responsabilités, vous ne dites pas ce que vous avez à dire, et vous caricaturez à la fois les accords, les propositions, tout ça est plus facile que de venir et d'assumer sa responsabilité avec courage et honnêteté.
Alors de cette visite du ministre des Outre-mer, on attend également, et vous aussi j'imagine, des réponses dans le domaine économique, notamment la confirmation du versement de la deuxième tranche du PGE, le prêt garanti par l'État. Après l'adoption par le Congrès du plan de réforme, ça vous paraît possible, voire inéluctable ? L'État va effectivement effectuer ce versement ?
Alors ça me paraît nécessaire, ça me paraît indispensable et j'espère bien qu'effectivement c'est inéluctable. Nous avons donc voté le plan de réforme qui était l'une des conditions. Hein. L'État nous demandait pour nous verser la deuxième tranche de ce prêt, je rappelle, 50 milliards répartis sur 2025 et 2026. Nous avons déjà eu 94 milliards en 2025, en début d'année, lors de la première tranche, mais la moitié quasiment de ces 94 milliards était dédiée à rembourser l'État des avances de trésorerie que l'État nous avait consenti en 2024. Donc aujourd'hui, nous en avons besoin pour de multiples services essentiels à la population calédonienne, pour notamment cette indemnité à l'emploi qui a donné suite au chômage partiel, pour sauver notre opérateur électrique si nous voulons encore avoir de l'électricité en Nouvelle-Calédonie, pour contribuer à ce qu'on continue à épurer, entre guillemets, notre dette du RUAM, donc à payer les hôpitaux, à relancer notre système de santé qui est à bout de souffle aujourd'hui. Vous voyez, enfin, c'est dans tous les secteurs de services rendus à la population que cette aide de l'État est plus que cruciale. Donc, nous avons fait les efforts. Ce plan de réforme a été voté un peu au forceps.
Justement, 25 voix contre 21, avec un débat houleux, assez long. Est-ce que vous attendiez une telle levée de boucliers si ce plan de réforme est indispensable? Est-ce que vous pensiez qu'autant de groupes politiques s'y opposeraient?
Alors non, précisément non, parce que le gouvernement, et notamment le membre du gouvernement en charge du budget, Thierry Santa, mais bien sûr le président du gouvernement, le membre en charge de la fiscalité, Christophe Gilles, enfin tout le monde est venu au Congrès. Nous avons eu 6 séances entières consacrées à ce plan de réforme entre le Congrès et le gouvernement. Le gouvernement a fait vraiment preuve d'un esprit de grande ouverture pour intégrer toutes les différentes préoccupations exprimées par les élus. Donc des élus qui ont exprimé un certain nombre d'oppositions qui ont été prises en compte par le gouvernement sous forme de quasiment 10 amendements pour modifier le texte initial. Et au final, ceux-là même qui demandaient les modifications ne votent pas la réforme pourtant ainsi amendée. Donc, et puis en plus, une grande caricature de la part de certains, du discours pour moi un peu de comptoir. caricaturant le plan, en disant que c'est le plan pour les plus riches, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, les efforts sont répartis sur tout le monde à la juste mesure. Et véritablement, on a nécessité de diminuer la voilure de la collectivité Nouvelle-Calédonie, car la réalité, il faut le dire aux gens, c'est qu'elle était au bord de la faillite. Et sans cette aide de l'État, c'est très compliqué. Mais nous ne pouvons plus assumer ce que nous avons pu proposer aux Calédoniens par le passé, parce que les moyens ne sont plus ce qu'ils étaient.
Alors, à l'occasion de cette séance budgétaire, vous êtes interrogé sur l'adoption de la réforme. Vous êtes interrogé sur la possibilité de réformer la Nouvelle-Calédonie. C'est une véritable interrogation ?
C'est une véritable...
La Calédonie est... Et réformable.
Alors bon, écoutez, le plan de réforme est passé, mais en tout cas, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression, évidemment, que dès que des échéances électorales, elles se profilent, malgré tout, enfin, on va enfin, je l'espère, à un moment donné, arriver à ce que les Calédoniens puissent à nouveau choisir les représentants politiques qui les incarnent. Eh bien, à chaque fois, on a une prise en otage, finalement, de réformes courageuses par des intérêts, à mon avis, purement électoraux. Je veux dire, à force de faire cet exercice, la Nouvelle-Calédonie se trouve dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Il faut faire avec ce que nous avons et on ne peut pas faire plus que ce que l'on a, avec plus que ce que l'on a. Donc, à un moment donné, ce langage de courage, quel que soit le temps, qu'il soit avant les élections, après, il faut avoir la responsabilité de le dire aux Calédoniens. Voilà. Et c'est pas... Alors, j'entends les élus... voyage des élus, bien sûr, il faut faire attention. Moi, je suis d'accord avec la Chambre territoriale des comptes, il faut des garde-fous, etc. Mais enfin, bon, là, on parle de 100 millions. Là, nous parlons de milliards, de milliards, de milliards accumulés depuis des années de dettes, du RUAM, de notre système de santé en général non maîtrisé, de l'opérateur électrique en difficulté. Enfin, dans tous les secteurs, nous sommes à la rue, quoi. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Alors, bon, il y a toujours des boucs émissaires dans une société. Si ça doit être les élus, bon, bah, tant mieux. Mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment une réforme globale où nous devons être très responsables et diminuer la voilure, encore une fois, progressivement. Progressivement, parce qu'il ne faut pas, et c'est ce que nous avons dit, nous, à Claire Durieux, nous l'avons écrit pour notre groupe, la déléguée interministérielle de l'État, qui vient piloter la reconstruction de Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas faire de réforme brutale qui va encore plus mettre en difficulté les Calédoniens. Nous sommes opposés à toucher, par exemple, au salaire des fonctionnaires, là, parce qu'on considère que c'est encore un amortisseur de consommation, les fonctionnaires, dans des familles où tout le monde a... Enfin, en tout cas, l'un des deux du couple a perdu son emploi dans le privé. Eh bien, le salaire du public, c'est celui qui vient encore maintenir un revenu au sein de ce foyer et faire vivre la famille. Et ça, c'est important aujourd'hui. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Ce matin, séance de questions au gouvernement, questions orales. C'est une séance de pure forme, on a envie de dire. Il ne faut pas en attendre grand-chose parce que c'est tellement codifié qu'il ne peut pas y avoir vraiment d'informations.
Oui, alors c'est une séance où le gouvernement rend des comptes un peu au Congrès sur des questions qui sont posées assez précises. Pour ne rien vous cacher, il n'y a que deux questions du groupe loyaliste et une question de nous-mêmes, le rassemblement ce matin. Parce que je pense que le contexte est tellement difficile, puis nous voyons régulièrement le gouvernement. Donc c'est une séance formelle, vous avez raison, qui est publique, qui permet à ce que les Calédoniens puissent en direct voir les questions posées par le Congrès au gouvernement. Pour notre part, nous, on s'interrogera sur le dispositif de code de la route gratuit, d'enseignement du code de la route gratuit au collège et au lycée que nous avions fait voter à l'unanimité du Congrès, dans un contexte où l'insertion professionnelle est plus que jamais doit être une priorité et où les accidents mortels sur la route sont dramatiques. Je pense que cette mesure, elle est indispensable. Elle ne coûte pas très cher, mais elle permet la gratuité de cet enseignement et donc un pas plus facile vers le permis de conduire pour la jeunesse.
Et puis, dernier point, originalité cette année, il n'y a pas de renouvellement du président et du bureau du Congrès.
Non, lorsqu'on avait relevé...
C'est l'une des premières fois depuis très longtemps. D'habitude, c'est annuel.
Bah oui, parce qu'en fait, les élections devaient avoir lieu fin novembre. Elles auront peut-être lieu fin novembre. Peut-être qu'elles auront lieu en début d'année, enfin, dans le premier semestre de l'année prochaine.
Avant juin 2026.
Oui, avant fin juin 2026. Vous savez qu'il y a une proposition de loi organique au Sénat qui a été déposée, notamment à l'initiative du groupe LR. Mathieu Darnaud, en étant chef de groupe, c'est notre famille politique, mais qui a recueilli la signature de plusieurs, enfin d'une majorité des autres groupes du Sénat, de façon à ce qu'on mette en œuvre, en fait, on puisse mettre en œuvre cet accord de Bougival et avoir les élections juste après. Donc, On ne voulait pas que pour 2 mois, on refasse un bureau complet du Congrès. C'est lourd, l'élection du bureau du Congrès, c'est lourd. Et donc, si c'est pour 2 mois, faire un nouveau bureau pour 2 mois, 3 mois, c'était la volonté d'aller jusqu'au prochain renouvellement, sans pour autant avoir toute cet épiphénomène, mais qui mobilise beaucoup à la fois les services du Congrès. Concentrons-nous sur la Nouvelle-Calédonie, son redressement, sa reconstruction. C'est ça notre priorité, plutôt que de réélire un bureau du Congrès dans le contexte actuel.
Manuel Valls arrive ce soir, vous le voyez en bilatéral dès demain après-midi ?
Absolument, mercredi après-midi en bilatéral. Nous travaillons juridiquement avec les loyalistes aujourd'hui pour être précis sur ces textes constitutionnels et organiques et traduire notre état d'esprit à Bougival. Et je sais que les formations indépendantistes, je pense à l'UNI, l'Éveil océanien et les autres groupes politiques en font de même. Nous ne boycotterons pas la table, nous serons à la hauteur de nos responsabilités.
Virginie Rufnak, merci d'accepter notre invitation.
Merci à vous.